Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
Bonjour et bienvenue à vous. Notre invité est banquier de formation, promoteur immobilier et expert en industrie horlogère. Il prend sa retraite à 40 ans pour se dédier fougueusement à la protection de l'environnement, en donnant des conférences et en écrivant des livres. Deux opus à ce jour, En voiture Simone en 2013 et Fonce Alphonse en 2015, pour illustrer ses propos. Lucien Vimin, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment sont nés ces deux livres ?
Alors, à force de donner des conférences, chaque fois on me disait, faut faire un film, faut écrire un livre. J'ai commencé par la chose la plus facile, c'est d'écrire un livre. Mais petit, hein. Vous avez vu, c'est de petits livres.
Ce sont des livres qu'on peut parcourir, on va dire, à 30, 45 minutes.
Oui, c'est vrai.
Prendre pour un trajet du train ou si on attend quelque chose. Le premier, c'est En voiture Simone. Bon, ça, c'est une expression qu'on connaît depuis longtemps. Et chaque fois, vous abordez des thèmes différents dans chacun de ces deux livres. Celui-là, c'est autour de l'énergie grise. Très simplement, qu'est-ce que c'est que l'énergie grise ?
L'énergie grise, c'est en fait toute l'énergie dont on a besoin pour fabriquer un objet. Et c'est souvent l'énergie que l'on oublie dans le cadre de nos programmes politiques, du fait qu'on a accès uniquement sur l'énergie qui est consommée ici en Suisse, et on prend très peu en compte, ou pas du tout en compte, l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer l'objet tout autour de la planète.
Alors, vous prenez l'exemple d'un simple crayon, et puis un crayon comme jadis, c'est-à-dire un crayon en bois. Mmh. Et là déjà, je vous laisse faire juste la déclinaison. Bon, il faut le bois déjà.
C'est ça. Donc l'idée, c'est justement de changer de vision, de voir un crayon sous une autre forme que ce qu'on le voit auparavant. Donc se mettre, enfiler ses lunettes de l'énergie grise pour regarder un crayon. Et quand on regarde un crayon avec les lunettes d'énergie grise, on voit que finalement, il a fallu couper un arbre pour le bois. Donc un arbre qui a été coupé avec une tronçonneuse qui est bourrée d'énergie grise parce qu'il a fallu la fabriquer et qui a besoin d'essence pour fonctionner. Ensuite, cet arbre, on va devoir le transporter avec un camion qui est bourré d'énergie grise, donc qui a beaucoup pollué près de fabriquer et qui a besoin de pétrole pour fonctionner. Et ensuite, on va amener ce tronc d'arbre dans une usine qui est bourrée d'énergie grise parce qu'il a fallu la fabriquer. Et dans cette usine, en fait, simplement, on va donner la dimension du crayon. Et là, avec des machines qui sont elles-mêmes bourrées d'énergie grise et qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Ce qui veut dire que dans un crayon, nous avons du pétrole et de l'électricité. Et ça, c'est une vision que nous avons de la peine à avoir depuis ici.
Et donc, lorsque je jette un crayon qui n'est pas fini, qui peut encore rendre service, je jette aussi tout ça.
C'est ça. J'y jette aussi de la poubelle. Je ne jette pas seulement un crayon, mais je jette aussi de l'électricité et du pétrole.
Et puis aussi tout ce qu'il faudra pour fabriquer un nouveau crayon.
C'est ça, parce qu'automatiquement, c'est du gaspillage, du fait que ce crayon qui aurait pu être utilisé encore un moment aurait fait qu'on ait moins de crayons sur cette planète.
Mais alors c'est abyssal, parce que si un petit crayon nécessite tout ça, si j'imagine tous les portables, téléphones portables, ordinateurs, même télévision, tout ça.
Une voiture
que l'on change à peu près tous les 2-3 ans dans les pays riches, c'est juste inimaginable.
C'est phénoménal.
Et cette énergie grise, au fond, c'est celle qui va attaquer le plus nos ressources, enfin, qui va utiliser, gaspiller ces ressources dont on dit souvent qu'il n'y en aura plus.
Alors, il y a vraiment trois dimensions. C'est-à-dire, il y a la première dimension qui est la partie énergétique. Donc, ce qui se passe, le défaut de nos programmes politiques actuellement, c'est que nos programmes politiques réduisent l'écologie à une question de dépenses énergétiques.
Et de pollution aussi.
Et de pollution, exactement. Parce qu'on n'est que sur une première dimension, c'est la dimension l'énergie consommée ici en Suisse, sous le ciel helvétique. Ce qui veut dire qu'on est réducteur, on a un esprit de clocher de la manière à laquelle on traite l'environnement aujourd'hui. On fait fi de la deuxième dimension, qui est celle de l'énergie grise, donc on est toujours dans l'énergie. Mais on fait fi aussi d'une troisième dimension que l'on trouve dans le petit livre Fonce Alphonse, qui est la pollution chimique. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que nous devons fabriquer un objet, qu'on le veuille ou non, on a besoin d'une filière imposante et le processus de fabrication demande à ce qu'on rejette dans les airs, dans les terres et dans les mers des substances toxiques pour le vivant. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on fabrique un objet quelque part sur la planète, chaque fois on y péjore la vie.
Donc cette frénésie du neuf, en fait, qui nous caractérise, qui nous fait consommer, c'est juste suicidaire d'une certaine manière.
Tout à fait. Et c'est très paradoxal parce que c'est vrai que quand je vois, c'est vrai qu'il y a un beau petit dessin de Mix et Remix à la fin de Fonce Alphonse qui dit, je me rappelle plus bien si vous l'avez sous les yeux, mais oui. Je crois que les parents offrent à l'enfant le cadeau de l'année d'avant.
Mm-hmm. Ah oui, dit, ton vieux jouet de l'année dernière. Ah, c'est notre cadeau, c'est ton futur.
Voilà, c'est ça. Le cadeau, c'est le futur. Donc, c'est-à-dire qu'on pense prendre soin de nos enfants en les bardant d'objets. Mais en fait, on est en train de les empêcher de vivre le bonheur le plus
immédiat,
oui. C'est-à-dire c'est de pouvoir vivre une nature intacte. Et ça, c'est un mauvais cadeau, finalement. Le beau cadeau serait vraiment justement de dire il n'y a pas de cadeau pour que ton futur soit meilleur.
Ou bien ça peut être aussi 2 kilos de fruits ou un gâteau fabriqué, on va trouver des moyens. Mais il y a beaucoup de choses dans ce dernier dessin, parce que ça veut dire aussi renoncer à toute cette joie du nouveau, en fait. Parce que chaque chose nouvelle nous donne l'illusion d'un recommencement.
Oui, alors je pense que c'est vraiment un changement de notre rapport à l'objet qui est important. Personnellement, je l'ai vécu, ce changement. J'étais quelqu'un qui aimait bien consommer. Moi, j'aime bien l'esthétisme, donc automatiquement, ça nous invite à acheter un peu plus. Mais c'est grâce à l'énergie grise, d'avoir compris l'énergie grise, que ça m'a permis de travailler à cela. Et aujourd'hui, le plaisir, je n'ai plus à acheter. Mais le plaisir, je l'ai à ne pas acheter. Et ça fait terriblement de bien. Alors, au début, quand on est encore dans la frénésie d'achat, tel que je l'étais, je précise bien.
On va voir votre parcours tout au long de cette heure, on va comprendre d'où vous venez.
Oui. Ça va être terrible, ça. Donc, je veux dire, mais bon, par rapport à ceci, donc vraiment dire que, au début, on peut croire qu'on souffre à ne pas acheter ou à faire attention, que c'est une souffrance.
Une frustration.
Mais au contraire, je dois vraiment dire que pour moi, c'est un désencombrement et c'est vraiment un bonheur. Ce qui est important quand on fait ce choix-là, c'est de savoir pourquoi on le fait. Quand je n'achète pas un objet, ou quand j'achète un objet d'occasion plutôt que d'acheter du neuf, ou quand je répare un objet plutôt que de le jeter et d'en acheter un nouveau, je sais pourquoi je le fais, c'est pour prendre soin de la vie. De votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à tous. Et c'est ce que j'explique dans les conférences que je donne, c'est qu'en fait, l'écologie, c'est prendre soin de la vie. De votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à tous. On ne peut pas se débiner, on ne peut pas se défiler.
Alors, dans le deuxième ouvrage, Fonce Alphonse, vous parlez beaucoup d'une économie de réparation. Donc, plutôt que de jeter, racheter, etc., réparer. Mais j'ai envie de vous rétorquer qu'il y a énormément de produits aujourd'hui qu'on ne peut plus réparer. Il y a beaucoup de télévisions, il y a beaucoup même de grille-pain, c'est expérience personnelle, où au bout d'une année et demie, 2 ans, la garantie est finie et l'objet est fini aussi. Et je suis une régulière de la Bonne Combine à Lausanne, qui est justement un endroit de récupération, de réparation. Et ils ne peuvent plus réparer. Certains grille-pains. Le seul qu'ils ont réussi, d'ailleurs que je continue à l'utiliser, c'est le Jura, où il faut tenir à la main, vous voyez. Donc il y a aussi toute une industrie qui nous force à acheter. Parce que ça, on peut plus réparer.
Comme quoi, le Jura, c'est quand même quelque chose de bien. Effectivement, donc, on parle d'obsolescence programmée. Effectivement, on peut imaginer que ça existe.
Mais c'est réel, hein, pour les voitures. J'ai un copain qui était carrossier, il a plus de métier. Parce qu'aujourd'hui, on remplace tout.
C'est vrai. Alors, en mettant en place avec une équipe les Repair Café du côté dans le canton de Neuchâtel, on organisait aussi dans le cadre de la chaussure rouge une soirée où les gens sont venus apprendre à réparer, donc ils venaient avec leur propre objet et c'est eux-mêmes qui ont réparé. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se réparent.
Quand même.
Donc commençons déjà par tout ce qui se répare. Et c'est ça qui est important. C'est pas de voir que ce qui ne va pas, mais c'est de voir ce qui va. Et vraiment pour rester dans ce positif. Et je dirais après, c'est clair qu'il faut absolument que sur le plan politique, on puisse mettre en place des instruments politiques ou économiques qui nous permettent justement de favoriser la réparation pour que le consommateur soit à la recherche d'objets réparables.
Au moins qu'on l'indique. Sur l'étiquette d'achat, si c'est réparable ou pas. Comme ça, on peut faire notre choix.
Oui, effectivement. Alors là, c'est qu'on montrera du doigt de nouveau les industries. Mais je pense que c'est aussi pour faire un changement durable et sur le long terme, je pense qu'il s'agit vraiment de travailler au niveau de la consommation.
Que ce soit plus possible.
Il faut vraiment que ce soit au niveau de la consommation. Et le consommateur, aujourd'hui, ce qu'il faut, moi, ce que je dis et je répète, nous sommes la politique en tant que citoyens et nous sommes les multinationales en tant que consommateurs. Donc, il s'agit de consommer ce que l'on veut et ne pas consommer ce qu'on ne veut pas. Et avec ça, on change les choses et on améliore la situation.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc, en tant que consommateur, nous sommes du côté des grandes entreprises et en tant que citoyen, nous sommes du côté de la politique. Donc, ça montre bien que nous sommes séparés entre deux tendances, en fait.
Alors, je voulais dire ça en disant que...
Avez raison, je trouve ça très juste.
Nous sommes, donc, notamment en Suisse, en plus, avec une démocratie quand même assez directe. En tant que citoyen, on a la possibilité de changer bien des choses. Personnellement, je l'ai testé, tout ceci. Donc, on est sorti du mazout pour les nouvelles constructions depuis le 1er janvier 2015. Le canton de Châtel, on ne peut plus construire d'objets immobilier avec mazout comme chauffage. On a besoin pour le faire d'avoir une autorisation spéciale de l'État. du Conseil d'État. Donc, c'est des choses qui ont été changées par simplement un geste citoyen. On a intégré la notion d'énergie grise dans la taxe automobile de Neuchâtel, c'était en 2013, grâce à ce petit bouquin En voiture Simone. Vous voyez, je veux dire, c'est des...
Donc, ça a un impact dans la réalité.
Tout à fait. Et dans le cadre du deuxième petit bouquin, c'est-à-dire France Alphonse, où là, on propose justement pour favoriser cette réparation et ce changement de rapport à l'objet, c'est une consigne énergie grise qui aujourd'hui est sur le bureau du Conseil fédéral. Donc, je veux dire par là, en tant que citoyen, on peut vraiment faire bouger les choses. Il s'agit plutôt que de...
Il s'agit d'y croire aussi.
Oui, et puis d'y aller, simplement, plutôt que de se plaindre de ce qui se passe, ben c'est de dire, ok, ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer ? Et c'est d'empoigner les choses et d'y aller. Et je dois dire aussi qu'à travers ces expériences-là, au niveau des politiciens, j'ai rencontré des politiciens de très belle volonté, de très bonne volonté. Et je pense que c'est important pour que les politiciens qui sont de bonne volonté et qui sont à négocier dans l'hémicycle, qu'ils puissent avoir comme un socle, une partie de la population qui crée un socle pour qu'ils puissent justement s'appuyer sur cette population, cette société civile qui est là, qui demande à ce que ça avance. Et d'ailleurs, on le voit très bien, les River Café, les soirées troc, etc. La société civile s'organise déjà dans ce sens-là. La politique a du retard actuellement.
Alors, on va rappeler, Lucien Vuillemin, que vous êtes, on l'entend, un grand aficionado de la protection de l'environnement. Vous avez signé deux bouquins, En voiture Simone et Fonce Alphonse. Vous êtes notre invité jusqu'à 15h. Et juste après cette première chanson dans l'émission, nous allons découvrir votre parcours personnel de la banque à l'écologie.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Alors c'est Zaz sur la première Je veux et c'est votre choix, Lucien Vuillemin. Pourquoi ?
Eh ben disons que c'est un bel exemple de refus d'accroître ses possessions. C'est ça, je crois que c'est important. Et c'est comme ça que ça débute,
mais,
je pense, ce chemin.
Oui, mais elle a participé à une de vos manifestations, c'est
oui,
ça que
oui, aussi, oui, tout à fait. Alors effectivement, Zaz a proposé... Donc Zazimut, elle a une association qui s'appelle Zazimut. Et elle a proposé à deux associations, qui est l'une de J'aime ma planète, du côté de Genève, et effectivement, également à la Chaussure Rouge, de pouvoir utiliser son concert, c'était le 29 janvier dernier à Palexpo, pour justement présenter les deux associations qui font quelque chose pour le vivant.
Oui, et la Chaussure Rouge, c'est en fait l'association, on va en parler tout à l'heure, mais c'est l'association que vous avez créée autour de votre passion pour la protection de l'environnement.
Alors ce n'est pas une association, mais on le verra tout à l'heure.
D'accord.
C'est vraiment, oui.
Mais
oui.
Qu'on retienne ça,
oui,
la chaussure rouge.
Oui.
La difficulté avec cet étang, c'est que d'une part, il y a un aspect historique, parce que depuis toujours, les gens du lieu, comme il n'y avait pas de plan d'eau autre que l'étang de la Gruère, ont pris l'habitude d'y pêcher, de vivre avec en fait. Et c'était au départ un instrument de travail puisque ça servait à faire marcher une scierie. Et puis bon, ben le succès amenant un peu beaucoup de monde, c'est vrai, on arrive maintenant dans une situation assez délicate où on voit que les berges se retirent à une vitesse assez impressionnante. Et puis, il faut faire quelque chose. Mais on a déjà fait quelque chose il y a 7-8 ans environ, en faisant des chemins pour les touristes. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Les gens allaient n'importe où, dans les myrtilliers, dans les tourbières, partout. Alors maintenant, avec ces chemins qu'on a faits, on canalise le 95% des gens. Il y a déjà un grand plus, mais ça ne suffit pas, ça c'est vrai.
Lucien Vimange, vous connaissez, c'était-on la Gruère ?
Ou que oui.
Ah oui, j'ai bien choisi. Vous êtes né à ?
Saint-Nulégie.
Ah voilà. Ouais. Et donc c'était-on, c'est un peu les temps de votre enfance ?
Oui, on y allait en vélo pour pêcher, on faisait de la pâte, et finalement on mangeait la pâte, mais on n'a jamais mangé de poisson. Donc voilà, parce que ouais, on lançait nos cannes à pêche. Moi, c'est des copains qui avaient ça, moi j'ai jamais eu de canne à pêche, mais j'allais avec eux, les accompagner. Puis la pâte qui était faite pour aller...
Titiller le poisson
était bonne, et puis finalement on mangeait la pâte, puis on n'a jamais attrapé de poisson.
Dans quelle famille êtes-vous arrivé au monde, Lucien Vimin ?
Dans une famille qui a beaucoup d'amour, notamment par ma mère et mon père aussi. Donc une famille ouvrière. Hein, donc voilà. Et
quel métier, enfin, dans quel domaine ?
Alors mon père était au service des eaux des Franches Montagnes. Ce qui veut dire que c'est intéressant, c'est lui qui a fait de ses mains poser les tuyaux de fonte de Cormoray à Saint-Nulégie pour les Franches Montagnes. C'est ces tuyaux-là qui ont permis en fait d'alimenter en eau potable la région des Franches Montagnes. Je ne m'en suis pas du tout rendu compte à l'époque, parce que j'étais petit.
Mais c'est très important.
Oui, aujourd'hui, je trouve que c'est un beau symbole. Ouais.
Et votre maman ?
Ma mère était au foyer.
Oui. Ouais. Vous êtes triste, elle n'est plus là ?
Non, elle est toujours là. Toujours là.
Mais c'était une très belle période, l'enfance, c'est ça ?
Oui, moi je suis arrivé troisième, je suis le troisième de...
De combien ?
Deux sœurs.
Ah, trois garçons.
Trois
enfants.
Oui, trois enfants. Et puis j'ai un petit écart entre mes deux sœurs. Mes deux sœurs sont arrivées en 58 et 60, et moi je suis arrivé fin des années 60.
Le petit dernier.
Mm-hmm. Effectivement, apparemment mon père rentrait de l'armée, je crois que c'est pour ça que je suis arrivé, donc je m'en poussais pour arriver sur cette terre apparemment. Donc voilà, et je dirais que ce qui se passe, c'est que entre la fin des années 50 et le début des années 70, c'est ce que j'ai toujours dit, moi je suis né avec le chocolat dans le tiroir.
Ça veut dire une vie plus facile.
Sur le plan maternel, ouais. Par rapport à mes frangines, mes parents, mes sœurs qui ont vraiment vécu autre chose.
D'accord. Et leur vie quotidienne, qu'est-ce que vous vous souvenez ? C'était une vie de fête, un petit peu de chaleur familiale ?
Alors, on avait la famille du côté de ma mère, les Crevoisiers, c'est une famille très joyeuse. Et on se rencontrait, on dansait, on poussait la table. C'était des espaces pas très grands. Puis il y avait un disque avec des chevaux franc-montagnards dessus qui s'appelait, je sais plus comment, c'était un orchestre avec les accordéons. C'était les accordéonistes jurassiens du Jura ou quelque chose comme ça. Et puis je me rappelle bien de la pochette par contre, pas du nom mais de la pochette. Et puis c'était le dimanche, quand on allait rencontrer les grands-parents, on mettait ce disque et puis on dansait. C'était vraiment sympa. Du côté de mon père, c'était du côté pas bien loin, dans la Courtine, dans le Jura aussi. Et là, c'était d'autres souvenirs. C'était plutôt le souvenir des champs, dans les champs, parce que mon grand-père était agriculteur. Et mon oncle a repris le domaine de l'agriculture. Donc, ça veut dire que l'été, on l'a passé au champ à faire les foins. Et c'était aussi un beau souvenir, différent. Et je me rappelle qu'il y avait une jument qui s'appelait Fanny. Et j'étais à grand écart sur cette jument parce que les chevaux franc-montagnards à l'époque étaient encore
ils
des chevaux
larges.
De trait. Ouais. C'était pas aussi fin qu'aujourd'hui. Fanny, je me rappelle, c'était une blonde, elle était bien. Et puis, on allait la chercher au champ. C'était vraiment sympa, chercher les génisses et tout. Donc, aussi bon contact avec la nature.
Voilà, c'est ça. Déjà, être né dans le Jura, la nature est beaucoup plus présente. Oui, vous n'êtes pas né dans une grande ville avec le béton et tout. Donc, il y avait déjà cette fibre très développée de l'amour de la nature, de vivre avec la nature.
Oui, je pense que c'est l'amour tout court. C'est l'amour de la vie, en fait. Les gens, la nature, la vie, tout, c'est un tout, en fait. Et si on aime l'un, c'est difficile. Moi, il me semble, c'est pas possible de ne pas aimer l'autre. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'aimer la vie, les gens, la nature.
Quel adolescent étiez-vous ? Est-ce que vous étiez un adolescent chevelu ?
Alors, attention, chevelu, il y a une petite histoire, j'y viens plus tard. Mais disons qu'au niveau de l'adolescence, de ce que je me souviens, il faudrait peut-être demander à mes parents, mais il me semble que c'était assez calme, en fait. Je savais assez où je voulais aller, j'étais assez calme intérieurement.
Vous participiez au marché concours, à toutes ces...
Ah ouais, le marché concours, c'est la fête nationale.
Je sais. J'ai été, par hasard, l'année passée, j'ai vu l'ampleur cette manifestation et que tout le monde participe en bénévole.
Oui, vraiment. D'ailleurs, on allait cirer les bancs de l'église deux semaines auparavant pour se faire un peu d'argent, pour se payer les carousels. C'était quelque chose de terrible pour draguer les filles aussi, c'était bien.
Et vous-même, vous aviez des chevaux ?
Non.
Il me semblait que tout le monde dans le Jura a des chevaux, dans la région en tout cas, de Seigne-et-Lévis.
Effectivement. Donc, mon grand-père, donc paternel, là, il avait des chevaux. Parce qu'il faisait du commerce de chevaux. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours contact avec les chevaux. Un animal que j'ai toujours beaucoup aimé, d'ailleurs, que je ne mange pas. Je me suis refusé de manger du cheval. Et puis, oui, voilà, c'est au niveau des chevaux. Mais par contre, toujours en contact avec les chevaux. Et c'est vrai que quand j'avais entre 12 et 13 ans, je montais un poney qui était assez grand, c'est un petit poney de course. C'était le copain de mon père qui avait un cheval, il fallait s'en occuper, j'allais chercher et tout, c'était chouette quoi. Ouais, c'était des balades à cheval.
Entre nous soit dit, sur la première, Lydia Gabor.
It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now.
Frédérica Stahl, Tomorrow, sur la première, où nous sommes en compagnie de Lucien Vimin, qui signe Fonce Alphonse, et en voiture, Simone.
En 2007, le conseiller nous téléphone, comme chaque année. Il est venu à la maison et a dit, écoutez, là, sur ce compte bancaire, vous avez 200 000 francs qui dorment. Il faudrait les placer. Mon père, tout de suite, très frileux, non. Et là, il faut aussi que je dise la vérité, moi, j'ai appuyé le conseiller. En disant, mais oui, papa, mais qu'est-ce que tu veux, 200 000 qui dorment à 0,125%, c'est complètement débile. À ce moment-là, on a dit, on est d'accord que le seul risque que nous on prend, c'est que le Crédit Suisse fasse faillite. Oui, on a bien rigolé. Et on lui a donné l'ordre à la maison, vous achetez 150 000 francs, Podium Crédit Suisse, en francs suisses.
Et une année plus tard, le 15 septembre 2008, la banque américaine Lehman Brothers fait faillite.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment, j'ai commencé à paniquer. Et puis, je téléphone à un autre ami banquier. Puis, je dis, mais dis donc, j'ai pas d'Lehman Brothers, moi. Puis, il dit, non, je crois pas, mais je vais regarder. Puis, j'ai pas eu de nouvelles du week-end. Lundi matin, cet ami me téléphone, puis il me dit, écoute, t'avais 150 000 francs chez Lehman Brothers. Ça nous a pété les nerfs, hein. Ça, c'est évident. Je dis, mon père, il dort plus, ma mère, elle dort plus. Moi, j'ai fait des semaines avant de pouvoir redormir. Voilà, ça, c'est l'affaire Lehman Brothers.
Voilà, Lucien Vimin, je suis sûre que ce témoignage vous touche. Tout ça pour évoquer le fait que vous vous êtes formé dans le monde bancaire. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement et de ce que cette dame raconte? Donc, c'est la chute en 2008 de Lehman Brothers qui a disparu. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont investi de l'argent là-dedans ont perdu.
Oui.
Ou alors ont récupéré très peu, je ne sais plus exactement. Selon les banques, les règles sont différentes.
Très, très peu. Disons que c'est vrai que c'est là qu'on voit cet appât du gain, qu'on en veut toujours plus. Et on perd totalement la notion.
Je trouve que cette dame avait raison. C'est-à-dire, quand on a 200 000 francs et puis qu'on ne fait rien avec, on peut se dire, est-ce que je pourrais le faire fructifier?
C'est ça. Alors, je dirais que, finalement, expérience faite. Hein,
justement, vous venez de ce monde. D'ailleurs, j'aimerais après comprendre comment vous avez fait ce choix.
Oui, alors, c'était tout au début. Hein, c'est ma première profession. J'ai commencé par cela. Ensuite, j'allais après à Zurich pour y apprendre l'allemand.
Mais justement,
c'était fin des années 80, début des années 90, d'accord, avant que les restructurations commencent. Donc, les restructurations ont commencé dans le monde des entreprises, fin des années 80, début 90. Et bien sûr, le domaine financier était le premier touché. Donc, le domaine bancaire était le premier touché du fait que c'est les financiers qui ont mis ces restructurations en place. Et j'ai vécu ces débuts. Et en tant que jeune employé, j'ai décidé de changer. C'est vrai que j'ai changé de métier, c'est vrai que je suis devenu directeur des achats pour une entreprise horlogère.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'univers dont vous êtes issu, qui est quand même un univers de nature, du Jura, Seigne-et-Légier. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a intéressé?
Je pense peut-être qu'il y avait, comme, je veux dire clairement, c'est vrai que la banque, à l'époque, c'était un statut. Il y avait quelque chose qui donnait un certain statut, quoi. En fait, c'est clair. Et c'est vrai que même dans les petits villages, quand on travaillait dans une banque, ça donnait tout de suite quelque chose. Donc, peut-être bien que c'est quelque chose qui m'a attiré au départ.
Vous avez quitté donc cet univers pour aller étudier, ou vous avez fait votre apprentissage de banque où?
À Seigne-et-Légier, donc. Ouais.
D'accord, je sais qu'il y a une banque. C'est ça, il y a même plusieurs banques.
Oui, à la Banque cantonale du Jura, d'ailleurs.
Ouais. Voilà, exactement. C'est différent, une banque dans une petite ville, ou alors une banque dans les grands jeux.
Donc, à Zurich, là, c'était différent. J'étais au service des titres et de la bourse. Donc, j'ai œuvré à ces choses-là, oui, bien sûr.
Alors, vous parliez du changement auquel vous avez assisté. J'aimerais comprendre, justement, qu'est-ce que c'est que ce monde banquier, des banques aujourd'hui? On entend l'économie réelle, l'économie en bourse, les banques, l'argent. Mais on comprend pas forcément toujours ce qui se passe et quel est l'impact sur notre vie.
Alors, l'impact sur notre vie, en fait, ben, simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un capital, vous le mettez dans une banque, il y a la volonté, on nous fait toujours penser qu'il y a la possibilité de gagner toujours plus.
Un petit peu plus.
C'est
ouais.
ça, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est l'appât du gain, donc tout le monde est un petit peu appâté par ça,
appâté,
en fait.
Oui.
Et je dirais que, en tout cas, personnellement, ayant fait l'expérience, si l'argent que j'ai aujourd'hui sur mon compte en banque, si j'avais l'argent que j'ai gagné, si j'avais laissé sur mon compte en banque dormir jusqu'à maintenant, j'aurais plus d'argent aujourd'hui sur mon compte en banque que ce que j'en ai réellement. Donc finalement, c'est un jeu. C'est un peu le jeu de l'avion. Hein. On attend que beaucoup de monde descend, monte à l'avion. Après, on laisse piquer l'avion, on laisse s'écraser. Et puis après, on recommence, on remplit à nouveau
mais
l'avion.
Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si c'était volontaire, comme s'il y avait quelqu'un qui orchestrait tout ça. Or, on a l'impression que c'est juste le mouvement de l'inconscient collectif qui fait qu'à un certain moment, certaines sommes montent, d'autres descendent.
Ben, disons que ça dépend à quel niveau on se place. Je pense que dans une petite banque de village ou même une petite ville, franchement, les employés de banque qui travaillent là, franchement, font ce qu'on leur demande de faire. Je pense que les décisions viennent de beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, ce n'est pas les gens que l'on côtoie régulièrement dans la rue. Je pense que si on a une personne qui traîne, un ami ou une connaissance qui traîne dans les banques, je pense qu'on ne peut pas les voir comme des personnes identiques à celles qui dessinent ce qui se fait sur le global. Ça nous dépasse complètement. Ça va
dans les sphères. Même vous, quand vous étiez en train de travailler dans une banque, vous aviez ce sentiment que ça vous dépassait?
Disons que
vous compreniez ce qui se passait, mais sans savoir qui et comment.
Oui, c'est une petite banque de nouveau, mais même là, et je dirais que ce qui se passe, c'est que c'est le verbe utilisé à l'intérieur, à l'extérieur. C'est ça qui était des fois un peu désobligeant. Mais je répète, c'était de petites banques, c'était pas de grandes banques, j'étais pas à Wall Street. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même différent.
Mais bon, Crédit Suisse à Zurich ou comme ça, c'est une très, très grande banque.
Oui, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez pensé en 2008 quand c'est arrivé? Vous qui connaissiez quand même un tout petit peu l'intérieur aussi.
C'est pas étonnant. À un moment donné, c'est le jeu de l'avion. Vous savez, des moments où on, pour vraiment schématiser, c'est que on fait monter des gens dans l'avion. Et à un moment donné, l'avion commence à être trop lourd et puis on laisse cracher l'avion. Et ça
Mais à qui profite le crime?
Ah, ben, dirons qu'à ceux qui sont montés les premiers dans l'avion.
Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter dans ce domaine? Donc, avoir, vous vous êtes séparé de ce domaine à un certain moment. Il y a eu un événement, quelque chose qui vous a dit, maintenant j'arrête cette
affaire. Ben, c'est vite vu, c'est le directeur qui avait de nombreuses années de service. Qui était une personne, je trouvais, loyale et qui a été mise à la porte par remplacée par une jeune personne avec diplôme universitaire. Et c'était le début, quoi. Et voilà. Et ça a été un déclencheur pour moi. J'ai pas accepté ça. Je voulais pas participer à ça. J'ai pas envie d'être dans un milieu comme celui-là.
Et qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous avez appris quelque chose de cette expérience qui, à la limite, peut vous servir aujourd'hui?
Totalement. Alors, c'est vrai que, en tout cas, ce qui est intéressant dans le métier de banque, c'est que on doit être très précis dans ce que l'on fait. Donc, ça demande beaucoup de rigueur. Parce qu'on travaille avec l'argent des autres. Donc, c'est au centime près. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup structuré. Alors, pour le travail, ça m'a permis d'être un bon gestionnaire. Et ce qui m'a permis, dans le reste de mes métiers, différents métiers, de vraiment pouvoir avoir. C'est une belle base, quoi. Franchement, je dois dire que c'est une belle base pour apprendre à travailler.
Et la précision, vous l'avez gardée.
Oui, et la précision, ouais, le côté très structurant. Et puis, c'est quelque chose, justement, on est dans le détail et on ne laisse pas passer les choses comme ça. On ne se satisfait pas de l'à peu près, on veut toujours aller dans la précision. Et ça, c'est, je trouve que c'est un côté intéressant.
On n'a pas le même drapeau. La même couleur de peau, on n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images, on n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent, mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang, et on a tous le même soleil. Et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais dans mélange on fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants, et tous issus d'un métissage, devenus fous mais nés si sages. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore.
Soleil Grégoire sur la première, où nous sommes en compagnie toujours de Lucien Vimin. Vous avez choisi ce morceau.
Oui.
C'est pour le soleil, le café du soleil à Saint-Léger.
Ah ouais, pas mal. C'est même le soleil vert SA quand j'étais gamin. En tout cas, je sais pas s'ils ont changé l'appellation. Oui, parce que j'aime beaucoup, nous avons tous le même soleil. Et je trouve que c'est important, c'est de se rendre compte. Nous sommes tous en lien, qu'on le veuille ou non. On peut pas faire autrement. On est tous sur le même bateau. On est tous liés avec des chaînes qu'on ne peut pas briser. On est tous en lien, on est tous sur le même bateau. Et c'est ça, c'est de pouvoir, je trouve, j'en appelle à ce qu'on puisse élargir nos égoïsmes. C'est-à-dire de se rendre compte qu'aujourd'hui, quels que soient les choix que je fais et quels que soient mes actes, que je le veuille ou non, ils ont une conséquence sur le collectif. Et ça peut être une conséquence positive ou une conséquence fâcheuse. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une conséquence fâcheuse, ce qui est fâcheux pour le collectif est fâcheux pour moi, et ce qui est positif pour le collectif est positif pour moi. Ce qui veut dire, à partir de là, dès que j'ai compris ça, ça permet de dire, ben voilà, c'est de souhaiter du bien autour de soi.
C'est une philosophie, vous avez reçu une illumination, un message divin, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, simplement en se donnant le temps de réfléchir, de penser et de réfléchir, c'est des choses qui arrivent. Et puis je pense que l'environnement, la question environnementale aujourd'hui où on en est, permet d'arriver à cet état de fait. Et je trouve que c'est peut-être là que c'est intéressant, la situation dans laquelle on est maintenant, c'est qu'on arrive dans une situation où on ne pourra pas ne pas voir différemment. Donc ça nous permettra de vraiment comprendre ce qu'est la vie et de comprendre que finalement... Ben oui, si vous n'allez pas bien, si je vous souhaite du mal, je vous souhaite du mal à moi-même. Et ça, c'est vraiment important de bien le comprendre.
Dans toute l'histoire horlogère, les histoires entre les Suisses et les Chinois, ça s'est toujours très mal terminé. Ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer, mais il faut faire attention. Et le problème, ce n'est pas celui des Suisses, c'est le problème des Chinois. Est-ce qu'ils sont enfin décidés à faire les choses sérieusement dans l'horlogerie? Ça, on le verra à l'usage. Corum est une marque en pleine dynamique, c'est une marque en pleine ascension. Jusqu'à présent, les Chinois, avec Eterna par exemple, s'étaient offert des marques en déliquescence ou des manufactures qui ne marchaient pas très bien. Là, avec Corum, ils s'achètent un potentiel de croissance. Et ils s'achètent surtout, à mes yeux, quelque chose qui est très important, c'est un savoir-faire. Ils s'attachent une équipe avec un CEO qui est très compétent et il s'attache une équipe de production, de marketing, de commercialisation de premier niveau. Et là, ils vont pouvoir faire très mal, non seulement sur Corum, mais également sur Eterna. Et à mon avis, ça va ronfler cette affaire-là.
Le monde de l'horlogerie qui part en partie en Chine, vous connaissez aussi un petit peu, Lucien Vimin.
Oui,
vous avez été en Chine.
Oui, justement, j'étais directeur des achats pour une entreprise horlogère, ce qui m'a permis de partir justement en Hong Kong, Bangkok, la Chine. Et j'ai vécu en fait la transhumance de l'industrie de Hong Kong sur la Chine. Je ne sais pas, quand nous étions enfants, quand on regardait un jouet à l'arrière, c'était marqué Made in Hong Kong. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est Made in China. Et cette transhumance-là, j'ai vécu à ses débuts. Et j'ai vu ce que ça voulait dire sur le plan environnemental. Alors sur le plan environnemental, c'est des montagnes creusées en V pour passer un pont. C'était la construction d'usines d'une manière totalement hétéroclite. On voyait, plus vite je construis mon usine, plus vite je fabrique mes produits, plus vite je fais de l'argent. Et des usines grandes comme 4, 5, 6 terrains de foot, c'est inimaginable quand on habite ici en Suisse. C'est une dimension totalement autre. C'est des milliers de personnes alignées dans une chaleur, dans une odeur, dans un bruit. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'ai compris aujourd'hui.
Et par rapport à l'horlogerie suisse, qui est une horlogerie haut de gamme et qui, elle aussi, est en transhumance un peu vers, en tout cas vers la Chine.
Mmh. Effectivement.
Y avez participé ou...
Non, pas vraiment. Du fait que c'était au début des années 90, c'est la première moitié des années 90 où j'ai vécu le monde horloger. Donc, il y avait des prémices, c'était en fait des composants qui partaient gentiment, mais il n'y avait pas encore
carrément des
marques. Ouais, effectivement, en tout cas pas les grandes marques. Mais on le voit, du côté de la Chaux-de-Fonds, dans la ville de laquelle je viens, on avait beaucoup de patrons. Aujourd'hui, on n'a plus que des directeurs. Hein. Donc, ce qui veut dire que les patrons sont plus sur place. Ce qui veut dire que pour la ville de la Chaux-de-Fonds, c'est pas facile parce que quand vous êtes patron, vous faites plus pour le collectif habituellement. Hein.
Vous êtes dans la production.
Mais oui, mais surtout, vous êtes aussi là pour la culture, pour soutenir la culture, soutenir les clubs sportifs, soutenir la collectivité. Aujourd'hui, un directeur est sur son siège électable. Il a éventuellement un budget pour ces différents éléments-là, mais il a peu de pouvoir pour déléguer beaucoup de fonds, pour favoriser la collectivité dans laquelle s'insère la société.
Mais le contact avec la Chine vous a aussi rendu sensible au problème d'environnement?
Oui, totalement. Alors, c'était vraiment un immense déclencheur. Non seulement sur l'environnement, mais sur les conditions humaines et sociales. Je me rappelle toujours d'une image qui était très forte. C'était en pleine construction. J'étais allé durant la mousson. Et puis, il y avait un pont à moitié terminé. Il y a même déjà la mousse. Donc, ça veut dire un bout de temps qu'il était là. Bon, bien, même que ça vient très vite.
Très vite, c'est très humide. Oui.
Mais disons qu'il y avait au pied de ce pont à moitié terminé une grande flaque d'eau, à peu près de 20 mètres de diamètre. C'était devenu comme un rond-point, en fait. C'est quand on allait dans les usines. Donc. Et là, à côté de cette flaque, il y avait une dame qui était là avec son petit dans les bras, un bébé, et qui faisait la manche, en fait. Et un peu plus loin, il y avait une cabane en bois. Alors, c'est peut-être mon imagination, mais j'ai pensé que c'était peut-être sa maison. Mmh. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que cette dame, avant que nous arrivions avec une autre manière de voir à l'occidental, elle avait la nature avec elle pour vivre. et se faire manger, et nourrir ses enfants. Et puis là, on arrivait, on s'appropriait les terres, et pour faire des usines, Maorel était soit réduite à faire la manche, ou à aller en usine, dans des conditions effroyables. Et ça, je dois dire que ouais, c'est quelque chose qui me reste encore aujourd'hui, je le vois très bien encore dans mon esprit, alors que je vous le raconte maintenant.
Et ce monde-là aussi, vous l'avez quitté à un certain moment?
Oui, effectivement, parce que je me suis rendu compte de ce à quoi je participais. Imaginez-vous, j'allais négocier les prix d'achat. C'est-à-dire que j'allais encore faire que descendre les prix. Donc, c'est clair que, voilà, et jusqu'à ce qu'on réalise vraiment ce que l'on est en train de faire. Alors après, soit on accepte ce jeu-là, et puis on, bah, tant pis, on met un peu de côté sa conscience. Ou soit on écoute sa conscience, et puis sa conscience vous dit non. Et recentre, et à partir de là, faut lâcher. Et c'est vrai que, mais c'est pas évident parce que, ouais, pas évident. Maintenant, je dis volontiers, mais c'était que sur le moment, je l'ai fait parce que c'était trop fort pour moi. Et mais donc, on quitte une sécurité. C'était un beau poste, un bon revenu, une belle carrière en vue. Et puis, on se retrouve là, tout seul sur son radeau au milieu de l'océan et à recommencer autre chose. Mais c'est bon parce que, en fait, ce qui est pas facile, et là, j'invite toute personne qui se trouve dans cette situation-là aujourd'hui de ne pas hésiter à faire le pas. Ça fait peur un peu au début, ça peut faire peur, mais la peur, de toute façon, ça cristallise et ça empêche d'aller d'avant. Et ça empêche l'évolution, la peur. Surtout ne pas avoir peur, avoir confiance en la vie, c'est très important. Si on se ressent bien et qu'on reste bien centré sur soi-même, c'est des choses qui fonctionnent habituellement. Et je dirais que y a cette peur. Puis tout à coup, quand on a pris la décision, on a beau se retrouver sur un petit radeau avec plus du tout de sécurité, mais il y a une énergie qui vient, qui est très créatrice et qui fait beaucoup de bien.
Alors moi, j'ai lu, mais peut-être je me trompe, qu'à l'âge de 40 ans, vous avez pu prendre une sorte de retraite. Mmh. Ça veut dire quand même qu'il y avait quand même des moyens, qu'avec toutes ces expériences, vous aviez accumulé quelque chose. Mmh. Parce que sinon, comment faire? Il faut quand même gagner sa vie.
Tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'ensuite, après, bon, c'est en 95, je me suis lancé dans l'immobilier. Je me suis associé pour créer une société immobilière. C'était 95, c'était pleine crise immobilière qui fonctionnait. Mais voilà, c'était comme ça, je le sentais ainsi. D'ailleurs, c'est assez marrant de la manière à laquelle ça s'est passé, parce que aussi bien pour l'horlogerie, en fait. Est-ce que j'ai le temps de raconter ça? C'est intéressant pour peut-être les personnes qui, les auditeurs, peut-être ça peut donner des pistes à certains. L'horlogerie, par exemple, j'étais dans le domaine bancaire et j'avais une annonce qui annonçait le remplacement du directeur des achats en horlogerie. Il fallait avoir la connaissance des montres, l'anglais et l'allemand. Puis j'avais que l'allemand. J'ai quand même fait une lettre assez dynamique, je veux dire. Puis elle a été retenue finalement à travers les différents
filtres.
Oui, j'ai finalement eu le poste, ce qui m'a permis de partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et après, voilà, faire ce qui a été fait. Et puis ensuite, alors c'est assez marrant parce que des fois, on veut toujours avoir toutes les composantes qui sont demandées dans une annonce, mais pas forcément besoin. Il s'agit d'avoir beaucoup de volonté aussi, c'est ça qui aide aussi beaucoup, et croire en soi. Et puis la deuxième partie, c'était de l'horlogerie à l'immobilier. Là justement, j'avais différentes possibilités, et je devais donner des réponses. Et en fait, j'étais comme dans mon rond-point en fait, mais j'ai pas encore trouvé la bonne sortie. Et l'idée, j'en partais skier avec mon ami de l'époque, qui est devenu mon épouse et la mère de nos enfants. Et il y avait l'impartial qui dépassait de la boîte aux lettres. Donc l'impartial, c'est le
journal.
Le je tire l'impartial, je l'ouvre et paf, j'arrivais sur une annonce qui disait nous recherchons un courtier expérimenté en immobilier et entre gens et bonnes présentations. Je lui dis c'est ça, je suis allé vers Annick, je lui dis écoute, tu me laisses 2 minutes, je remonte faire un téléphone, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et il y avait encore le fil. Hein. Je suis monté et ce jour-là, je tombais sur mon futur associé. Et alors qu'il était toujours très occupé, ce jour-là, c'est le moment précis, il était là. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai lu votre annonce, je n'ai absolument aucune expérience en immobilier, mais bonne présentation et entre gens, si je me donne la peine, je sais que je sais faire. Il m'a demandé un peu mon feedback et on s'est vu, on s'est fixé un rendez-vous. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà, je dirais que ne pas hésiter certaines fois, s'il y a quelque chose qui est très, dans le ressenti, l'intuitif, c'est très important. On a tendance à beaucoup trop arrondir nos instincts. Il faut vraiment, c'est la vie qui nous guide, l'instinct.
Mais donc, vous n'êtes plus dans l'immobilier non plus.
Non, effectivement. C'est vrai que là, bon, alors ça a été dur au départ, hein, à peu près une année sans revenu. Mais disons que, voilà, on n'avait pas de risque particulier. J'étais seul avec ma peau à sauver, en fait. Je n'avais pas encore de famille, je n'étais pas encore engagé, je n'étais même pas marié, donc ça allait bien. Et disons que, oui, il m'a fallu 2 ans pour me rendre compte qu'un promoteur immobilier avait une très, très large responsabilité en matière environnementale. À partir de là, je me suis entouré de gens compétents en la matière. Il y en avait très peu à l'époque. Hein, c'était 95, 97. C'est-à-dire il y a à peu près 20 ans, ça fait drôle. Et voilà, il y avait quelques-uns, des architectes qui étaient là, qui n'étaient pas en train de surfer sur la vague verte, mais qui étaient vraiment des vrais, qui avaient ça dans le ventre. Et vraiment, ils m'ont transmis tout ça. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir l'énergie grise. Et l'énergie grise a changé ma vie.
c'est-à-dire la conscience de cette énergie grise qui est utilisée pour chaque chose qu'on produit, oui, vous a fait voir tout autrement.
Oui. C'est-à-dire que ça m'a élargi mon champ de vision, quelque chose de phénoménal. On avait fait aussi beaucoup, pas mal de sacs à dos avec mon épouse, ma copine de l'époque, entre 20 et 30 ans, donc à la rencontre de minorités ethniques, de ce que j'avais vécu après les États-Unis, la Chine, toutes ces choses-là. Des gens qui sont ouvriers, d'autres qui sont multimillionnaires, à manger dans les hovelings, etc. Tous ces contrastes m'ont permis aussi de nourrir mon esprit aussi et de pouvoir en tirer aussi une analyse.
Et voilà. Aujourd'hui, donc, vous signez ces deux petits opus d'informations aussi pleins d'humour. En voiture, Simone et Fonce Alphonse, vous parlez de l'énergie grise, vous nous l'avez expliqué. Mmh. Moi, j'ai envie de vous faire écouter un son. Un autre petit interview autour de ça, et vous verrez comme c'est difficile pour ceux qui nous écoutent de savoir où est la vérité.
Si on regarde la question du remplacement des véhicules uniquement sous l'angle de la santé humaine, il est souvent bénéfique de remplacer une vieille voiture par une voiture récente et propre. Surtout si cette voiture est une voiture diesel.
Y compris en tenant compte de l'énergie grise ?
Oui, effectivement. Parce que les émissions, l'impact notamment sur la santé humaine, mais aussi en termes d'énergie grise, de la production, de la fabrication d'une nouvelle voiture, mais aussi de son élimination et donc recyclage, est relativement faible par rapport à l'impact de l'utilisation de la voiture, c'est-à-dire de la consommation d'essence. Et les voitures qui sont produites aujourd'hui émettent beaucoup moins de polluants que celles qui ont été produites il y a 10 ans ou 15 ans. Donc il faut parfois se résoudre à produire un peu de pollution pour produire une nouvelle voiture et pour recycler son ancienne voiture. Si ça nous permet ensuite, à chaque kilomètre parcouru, d'économiser pas mal de pollution.
Donc entendu à la radio, un personnage qui est tout à fait compétent dans ce domaine, qui nous dit ça, qu'il vaut mieux quand même changer de voiture souvent, plutôt qu'utiliser toute l'énergie de pollution et puis l'énergie qu'il faut pour s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous répondez ? Parce qu'il dit exactement le contraire de ce que vous dites.
Tout à fait. C'est d'ailleurs le petit livre en voiture Simone qui a donné lieu à cette interview-là.
Oui.
Alors, c'est la question que j'aurais aimé que le journaliste pose, c'est de quel humain parlez-vous ?
C'est-à-dire ?
Il parle des Suisses. Si on regarde ce qui se passe pour les humains qui fabriquent nos objets, c'est autre chose. Et ce qui se passe aussi à côté de réducteurs, ils ne parlent que d'énergie. Et l'énergie, c'est que, comme j'explique au départ, les trois dimensions. Première dimension, l'énergie consommée ici en Suisse. Deuxième, l'énergie grise consommée dans le monde. Et la troisième dimension, qui est la pollution chimique. On ne tient pas du compte de ça. Et ce qui se passe chaque fois qu'on fabrique une voiture, imaginez-vous le nombre de composants, c'est entre 150 000 et 200 000 composants dans une voiture. Imaginez-vous ce que ça génère comme rejet chimique dans les sols, dans les mers et dans les airs. Et cette chimie-là, une fois qu'on l'envoie, ce n'est pas remédiable et pas compensable.
Vous voulez dire dans les eaux, dans l'air, dans les terres.
Exact, partout. C'est ça. Et dans les pays qui fabriquent, mais il faut voir dans quel état ces pays se trouvent. Et il faut voir là-bas la santé humaine, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Alors c'est vrai que si on se positionne justement dans cet esprit de clocher de ce qui se passe sous notre ciel helvétique ici, effectivement, vous mélangez de bagnole. Parce qu'on va rejeter moins de CO2, etc. Bien que le CO2, ce n'est pas quelque chose qui altère l'air. Hein. Il a bien spécifié les choses, surtout des voitures diesel qui ont la particule fine et encore un peu de NOx. Mais disons que la voiture essence, c'est pratiquement plus du CO2 aujourd'hui. Et qu'elle soit d'aujourd'hui ou d'il y a environ 10 ans, 10 même 15 ans. Donc je dirais que c'est ça, c'est cette focus, c'est-à-dire qu'on est axé sur ce qui se passe uniquement, on réduit l'écologie à une question d'énergie, et en plus, on focalise en plus sur ce qui se passe sur la partie suisse nationale. Et c'est là que le bât blesse. Il s'agit vraiment d'ouvrir nos écoutilles et de tenir compte de la pollution chimique. Et celle-ci, contrairement à l'énergie, elle n'est pas calculable, elle n'est pas remédiable. Une fois qu'on a envoyé la chimie, les substances toxiques dans les mers, dans les airs et dans les sols, on ne peut plus faire autrement, c'est parti. Et ce n'est pas remédiable. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas compensable par l'utilisation de l'objet. C'est-à-dire que là, dans le calcul qui est fait, c'est de dire, OK, en conduisant ma voiture, je vais économiser de l'énergie. Donc, ça compensera une partie de l'énergie grise qui a été nécessaire pour la fabrication. Mais par contre, je ne pourrai jamais compenser toutes les substances toxiques qui ont été envoyées dans les airs, dans les mers et dans les sols, quoi. Et en fait, ce qui se passe, ce qui manque dans cette manière de voir l'écologie, c'est le vivant. c'est qu'on ne met pas la, on donne pas de place aux vivants. On est toujours dans des calculs et on tient que ce qui est calculable. Mais par contre, la pollution chimique n'est pas calculable. Oui, on peut savoir quelle quantité on a envoyé.
Oui,
mais...
et puis la Terre a une capacité de renouvellement. C'est les ça. Mers aussi.
Tout à fait.
C'est mais vivant, donc ça oui. peut aussi se renouveler. C'est comme si nous on mange quelque chose d'un peu toxique, au bout de trois jours, c'est fini.
Tout à fait. Mais si on accélère le renouvellement des objets, on accélère tellement que c'est comme une éponge, en fait. Moi, c'est un exemple un peu grossier, disons, mais c'est de dire, par exemple, une éponge, vous la mettez sous le robinet, vous nettoyez votre tableau, vous la laissez au bord du tableau, le lendemain matin, vous venez, elle s'est régénérée, elle est sèche, vous pouvez la réutiliser. Si vous la laissez sous le robinet ouvert toute la nuit, à un moment donné, elle regorge. Et la planète, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nos civilisations occidentales qui ont envahi le continent américain, l'Afrique du Sud, l'Australie, à elles seules, a déjà... créer les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et on veut y ajouter BRICS, c'est-à-dire Brésil, R pour Russie, I pour l'Inde, et C comme pour la Chine. Donc imaginez-vous, c'est des pays qui ont un nombre d'habitants beaucoup plus important que le nôtre. Comment est-ce qu'on peut penser que ça puisse résister? Ça ne peut pas tenir, ce n'est pas possible.
Il faut arrêter. Bon, les autres nous suivent aussi. Je veux dire, peut-être que l'Occident est un peu responsable d'avoir créé totalement. Ce modèle, mais les autres, ils vont dedans la tête la première.
Totalement, totalement.
Donc, ça fascine.
Totalement. J'en prends la responsabilité propre, moi-même. Je suis un occidental. C'est pour ça que j'ai décidé de changer, mais je ne peux pas demander aux autres de changer si moi je ne change pas. Donc j'ai décidé déjà de changer par moi-même pour savoir de quoi je parle. Et après de pouvoir conseiller et dire, mais écoute, attention, là, ce n'est pas la bonne voie, franchement. Et je dirais que par rapport à la voiture, là, je perds le fil, mince. Désolé.
Bon, vous disiez donc que vous-même vous êtes engagé, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de voiture? Vous avez une vieille...
Si, on a une vieille voiture qui a 19 ans maintenant. Mm-hmm.
Et donc, vous ne pensez pas qu'elle pollue en CO2 énormément ou...
Écoutez, elle n'a pas 19, elle a 97, donc elle a 17 ans. On fait attention de ne pas trop l'utiliser, mais je sais que si je m'en dessaisis, elle sera démolie. Parce qu'elle n'est pas exportable, elle n'est plus exportable, elle est trop âgée, elle sera démolie. Et démolir tout ça, c'est terrifiant, dans le sens du gaspillage.
On ne peut pas réutiliser la matière.
Mais disons que cette voiture, elle rejette du CO2, certes, ok, mais si je change de voiture, cette voiture-là, pour acheter une nouvelle voiture, imaginez-vous ce qu'il a fallu pour fabriquer tous les composants. Et non seulement au niveau de l'énergie grise, mais en plus de la pollution chimique. Et en même temps, quand on fait des éco-bilans où on calcule l'énergie grise, ok, il faut savoir que c'est des estimations. Certaines fois, et plus l'objet est complexe, c'est-à-dire plus il y a de composants, plus l'estimation est à la louche, quoi, et approximative. Donc aujourd'hui, on le voit, on se réfère sur des chiffres pour pouvoir faire nos choix politiques, mais on voit aussi même que ces chiffres-là, on triche au niveau des constructeurs, on le voit maintenant.
On l'a vu, ouais.
Donc franchement, est-ce que c'est vraiment la voie à suivre? Moi, je pense qu'il faut vraiment à tout prix avoir la notion du vivant. Ça, c'est très important dans notre réflexion. C'est la vie qui est importante sur cette terre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, il s'agit de rééquilibrer notre économie, parce qu'on a une économie qui ne tient absolument pas compte de l'élément le plus essentiel, le plus fondamental qui anime cette planète, c'est la vie. Alors, et je pense que la réparation, user ces objets, eh ben, ça permet d'amorcer ce rééquilibrage.
Et qu'est-ce que c'est que la chaussure rouge ?
Alors la chaussure rouge, c'est né du fait, en donnant mes conférences, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui des fois étaient un peu découragées par rapport à l'immensité du travail. Ça c'est clair, on se sent un peu seul certaines fois. Et pourtant, il y a des dizaines de millions de personnes sur cette planète, des dizaines de millions de personnes qui font quelque chose. Il y a des milliers d'associations qui font des choses formidables. Et ça ne se voit pas. Alors l'idée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer un symbole qui se voit? Et ça m'a réveillé une nuit, en pleine nuit, en nuit de décembre en 2012, la chaussure rouge. Je suis allé... aux toilettes et j'ai écrit le texte, on le retrouve d'ailleurs sur le site de lachaussurerouge.ch. Or c'est quoi? La chaussure rouge, c'est un symbole, le symbole du prendre soin de la vie, qui a été créé pour permettre une communication collective. C'est-à-dire que en tant que citoyen, en tant qu'individu, je peux participer à communiquer le fait que j'ai décidé de me mettre en transition, j'ai décidé de changer quelque chose de ma vie pour faire mieux, pour le vivant, pour prendre soin de la vie. Et je le signale. C'est-à-dire, c'est donner la parole à tout un chacun. Et ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un bon orateur pour prendre la parole, il s'agit juste de mettre des chaussures rouges aux pieds et de le signaler. Et ce que dire qu'en se promenant dans la rue, c'est de le signaler, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un nous croise, on peut dire, ah tiens, est-ce que la personne est en train de se mettre en transition, est-ce qu'elle est en train de faire mieux pour prendre soin de la vie, etc. C'est quelque chose qui fait que ça anime aussi les gens qui se posent des questions, hein, qui sont en questionnement, mais c'est aussi la possibilité de rencontrer de belles personnes. Parce qu'on peut, deux chaussures rouges qui se rencontrent, ça fait de belles choses. Et sur le plan, il y a aussi des petits autocollants qui peuvent être gratuitement obtenus sur le site de la chaussure rouge, qui, pour arborer nos vieux objets, par exemple un vieux natel, de mettre le petit symbole de la chaussure rouge, de prendre soin de la vie sur un vieux natel, pour signifier que si j'ai un vieux natel, c'est pas parce que je ringarde, ou pas j'ai pas les moyens, c'est parce que j'ai décidé de prendre soin de la vie. Et pour les associations qui vont dans ce sens-là aussi, il y a la possibilité d'arborer le petit symbole auprès de leur logo, dans leur communication, etc., pour que la vie, parce que la vie elle est belle, ça mérite, elle mérite qu'on en prenne soin, et puis de montrer qu'on est plein sur cette planète à tenter de faire mieux pour le vivant. Ça, c'est très très important.
Merci beaucoup Lucien Vivement d'être passé nous voir. Donc je rappelle, la chaussure rouge en un seul mot.ch. Fonce Alphonse, c'est votre dernier ouvrage, et le premier c'est En voiture Simone. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, merci.
Lucien Vivement donne des conférences sur la décroissance le 18 mai prochain à Genève à la Maison du Grütli, en juin à Fribourg. Pour les infos précises, la chaussure rouge en un seul mot.ch. John Haslebacher était en régie, Nathalie Schaumberg a choisi les musiques, Monique Cortesi est notre assistante de production. Bon week-end à vous et à lundi avec Claude Torracinta. Il est 15h sur la première.